Puis à Paris, il est tout juste 15h10, l'heure de retrouver Michael Ponge pour le journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Michael.
Bonjour Adrien, merci. Il est 9h10 à Port-au-Prince. Un an qu'il est à la tête d'Haïti, on revient sur la première année d'exercice du Premier ministre Ariel Henry qui fêtait hier ses 12 premiers mois de mandat. On retrouvera Franz Duval du Nouvelliste en ligne avec nous de Port-au-Prince. La colère toujours et la situation qui se tend un peu plus au Panama face au coût de la vie. On sera aussi au Canada où le pape François est attendu dimanche pour une visite à destination des Premières Nations. Mais la polémique est déjà là. Tout ça, ce sera avant de vous retrouver Alex Léveillé pour le journal de la Première. En Martinique, une opération de gendarmerie fait la une.
Avec plusieurs personnes qui ont été interpellées, les saisies ont été nombreuses. Et puis nous parlerons aussi de football avec un stage pour 150 jeunes martiniquais pleins d'espoir.
Rendez-vous dans une quinzaine de minutes, Alex. Et bienvenue à tous.
RFI à Port-au-Prince. 89.3 FM.
Nommé deux jours avant l'assassinat du président Moïse, n'est finalement que le 20 juillet 2021 qu'Ariel Henry endossait officiellement les habits de Premier ministre d'Haïti. Un an aux commandes d'un pays en faillite, faute d'entente jusque-là sur une transition politique. 12 mois à l'occasion desquels le Premier ministre a fait une adresse à la nation hier soir.
Je veux rappeler aux uns et aux autres que la mission principale du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, est de créer les conditions pour la réalisation d'élections honnêtes, transparentes et démocratiques en vue de transmettre le pouvoir dans les meilleurs délais possibles à des élus librement choisis par une majorité d'Haïtiennes et d'Haïtiens. Pour parvenir à atteindre cet objectif, il importe de régler un certain nombre de problèmes essentiels que je veux redire à tous. Il s'agit de lutter contre l'insécurité et rétablir la paix et la libre circulation des personnes et des biens. Combattre la corruption sous toutes ses formes, en vue d'augmenter les recettes de l'État. Construire un consensus autour des modifications indispensables à apporter à la Constitution, afin de parvenir à un meilleur fonctionnement de nos institutions démocratiques. Mettre en place un appareil électoral crédible qui rassure tous les secteurs, et encourage une forte participation des électeurs en vue de garantir une légitimité certaine aux prochains élus. Je crois fermement que le dialogue est et demeure l'outil idéal pour résoudre les problèmes politiques. C'est la voie que j'ai privilégiée jusqu'ici et j'entends y demeurer.
Le Premier ministre Ariel Henry, hier à Port-au-Prince, une allocution que le chef de gouvernement a débuté avec les mots suivants. Je ne vais pas vous faire le bilan de ces 12 derniers mois, je laisse ce soin à d'autres. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef du Nouvelliste, vous, ce bilan, vous le faites aujourd'hui. Dans votre éditorial, vous estimez qu'Ariel Henry n'a pas surpris hier, que les mots sont d'ailleurs, depuis 12 mois, toujours les mêmes.
Toujours les mêmes. Le Premier ministre, à chaque fois, étale le programme qu'il espère couvrir, c'est-à-dire amener le pays aux élections, changer la Constitution, monter un conseil électoral provisoire et rétablir la sécurité. Mais il se trouve que ces promesses, le Premier ministre les fait à chaque intervention. Et à chaque fois, il n'y a pas de bilan, effectivement, parce qu'il n'avance pas. Il n'avance pas dans les réalisations. Il n'y a pas de résultat. C'est pourquoi le Premier ministre dit « laissez le bilan aux autres ». Le Premier ministre est là, il gouverne, ça fait un an, mais le bilan est très maigre.
Sur la sécurité justement que vous évoquez, France, Ariel Henry l'a dit, c'est la priorité numéro une des Haïtiens. Or vous estimez eh bien que la routine du pire justement s'installe en Haïti.
On a passé la semaine à se partager sur WhatsApp, qui est le média dominant en Haïti, si on peut appeler WhatsApp un média, des vidéos d'exécution, des vidéos d'expédition punitive que les gangs font. On a vu les victimes, on a vu les corps, on a tout vu. C'est ça la réalité ces jours-ci en Haïti. Il y a Cité Soleil qui, depuis plus de 15 jours, défraie l'actualité sans aucune réaction du gouvernement, sans aucune réaction des forces de l'ordre. Et la banalisation du pire en Haïti est en train de s'installer. Et malheureusement, quand le Premier ministre parle de sécurité, cette fois, il n'a pas parlé des équipements qui doivent arriver pour la police, parce que ça fait des mois que les nouveaux équipements pour renforcer la police doivent arriver incessamment, mais ils ne sont toujours pas sur place. En réalité, le Premier ministre parle beaucoup de sécurité, mais malheureusement, et dans les faits, C'est parce qu'il se passe et Port-au-Prince est affecté, les villes de province sont affectées. Il y a eu beaucoup d'affrontements dans l'Artibonite ces derniers jours. C'est compliqué, mais ça n'avance pas.
La routine du pire, hein, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs hier Ariel Henry de décorer une soixantaine de policiers pour leur action. Un autre point dans ce discours hier du chef de gouvernement, France, Ariel Henry a annoncé une augmentation des prix des carburants. Quel est l'objectif ?
Alors, il faut dire que dans le bilan du Premier ministre, l'augmentation du prix du carburant, c'est l'un des points, parce qu'il avait réussi en décembre dernier déjà à augmenter les prix des produits pétroliers, et il annonce qu'il y aura une nouvelle augmentation. Il faut dire qu'en décembre, le dollar s'est changé à peu près contre 80 gouttes pour un dollar, et aujourd'hui, nous sommes à 140 gouttes pour un dollar. Le prix de l'essence, mécaniquement, puisqu'il est acheté en dollars, doit être ajusté. Et en même temps, sur le marché international, depuis la crise en Ukraine, le pétrole lui-même aussi a augmenté. Et c'est peut-être à cause de ça que le gouvernement va augmenter les prix des produits pétroliers. Il faut dire aussi que le gouvernement a signé un accord avec le Fonds monétaire international qui oblige à faire la vérité des prix. Et ça passe par une augmentation des prix des produits pétroliers qui doit arriver peut-être et dans les prochains jours.
Et l'idée, finalement, c'est de permettre à l'État d'avoir des ressources pour acheter ce pétrole et le distribuer aux Haïtiens et, en effet, contrer le marché noir des produits pétroliers. Si on doit conclure, Franz, des réactions à ce discours, est-ce qu'il y en a ?
Non, pas encore, parce que le discours était annoncé pour 6 heures du soir. Il faut dire qu'à chaque fois que les officiels haïtiens annoncent une heure pour un message à la nation, et l'heure n'est pas respectée. Le discours a eu lieu un peu tard, vers 9 heures. Et pour le moment, c'est ce matin que la presse est en train de recueillir les premières réactions. Mais les réactions ne vont pas changer. Il faut dire que ce discours du Premier ministre, on l'a entendu déjà au moins une dizaine de fois depuis qu'il est là. Sauf que cette fois, il a une année au pouvoir.
Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste, avec nous dans notre rendez-vous aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'on referme cette page haïtienne.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Et on s'arrête maintenant au Panama, où la colère ne retombe pas. Malgré l'accord annoncé, les manifestations contre la cherté de la vie et la corruption se poursuivent. Bonjour Harim Lipold.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Et la situation à Harim est très tendue.
Oui, une grande partie du pays reste paralysée par les blocages routiers. Selon le journal La Prensa, des hommes armés ont intercepté hier mercredi un convoi humanitaire. Il s'agit d'une centaine de camions chargés de produits alimentaires qui étaient destinés à la capitale où la pénurie se fait de plus en plus sentir. Les blocages ont aggraver la situation économique et sociale dans le pays. La Chambre de commerce estime que la sécurité alimentaire est en jeu, selon La Prensa.
Et pour le moment, Harim, aucune issue n'est en vue.
Oui, exactement. Lors d'une réunion hier, les organisations, on vient de les entendre, à l'origine des manifestations dans le pays, se sont mis d'accord sur une liste de 8 revendications pour entamer des négociations avec le gouvernement du président Laurentino Cortizo. Parmi ces revendications, citées par le journal La Estrella, la baisse et le gel du prix des combustibles, de l'énergie, des médicaments et des aliments de base. Le gouvernement n'a pas encore réagi à ces demandes. Pour l'instant, les organisations maintiennent donc la pression, Michael, et poursuivent les manifestations. Le journal La Prensa s'interroge sur le silence du président. Où est passé Laurentino Cortizo, au titre le journal, critiquant les autorités pour leur incapacité d'agir.
Un autre sujet de crispation à la une aujourd'hui à Rim, c'est le sommet du Mercosur qui s'ouvre à Asunción au Paraguay dans un climat là aussi très tendu.
Oui, exactement. L'Uruguay, un des 4 membres du bloc économique, a froissé certains de ses partenaires et notamment l'Argentine, car le pays a décidé de négocier un accord de libre-échange avec la Chine, ce qui est formellement interdit par les statuts du Mercosur. Un pays membre ne peut pas négocier un tel traité en bilatéral avec un pays tiers. Malgré l'opposition de l'Argentine notamment, l'Uruguay persiste et signe. Le pays poursuivra ses négociations commerciales avec la Chine, écrit le journal El País. Mais d'après El Observador, le président Luis Lacalle Pou tentera quand même de convaincre ses collègues lors de ce sommet aujourd'hui d'élargir les négociations sur l'ensemble des pays du Mercosur. Autre pomme de discorde, Michael, la demande du président ukrainien de faire un discours par visioconférence lors de ce sommet. L'Uruguay est était d'accord d'accord, mais l'Argentine et le Brésil ont refusé de donner la parole à Volodymyr Zelensky.
Enfin, les États-Unis, Arim, allongent leur liste de hauts fonctionnaires latino-américains jugés trop corrompus pour travailler avec eux.
Exactement. Sur cette liste surnommée Engel, élaborée pour la première fois l'année dernière par le Congrès américain, figurent des dizaines de responsables du Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua. D'après le journal El Universal, l'administration Biden les accuse de corruption, d'obstruction à la justice ou encore de trafic de drogue. Les personnes qui figurent sur cette liste sont interdites d'entrer sur le territoire américain. Les conséquences de cette mesure, pour certains gouvernements d'Amérique latine, ce sera plus difficile de faire des affaires avec Washington, écrit le Los Angeles Times. Mais, poursuit le journal, en même temps, cette sanction compliquera aussi les efforts américains pour lutter contre l'immigration illégale en provenance des pays dits du Triangle du Nord, c'est-à-dire le Salvador, le Honduras et le Guatemala, car de nombreux partenaires potentiels seraient du coup disqualifiés pour participer à ces négociations.
Arim Nipold pour La Presse aujourd'hui. Merci beaucoup. 9h21 à Ottawa, le Canada, où arrivera dimanche le pape François. Une semaine de voyage. Le souverain pontife vient présenter notamment ses excuses au nom de l'Église pour le scandale des pensionnats gérés par les institutions catholiques dans lesquelles des milliers d'enfants autochtones ont été enrôlés de force pour être assimilés à la culture dominante. Entre 1830 et 1996, des centaines de ces enfants y ont trouvé la mort. Visite donc, on le comprend, très symbolique, mais déjà dénoncée, elle a été organisée au pas de course par le Vatican avec un programme allégé pour le pape à l'état de santé fragile. Certains lieux emblématiques ont été oubliés et les populations concernées n'ont pas été associées à l'organisation, comme nous l'explique Jean-François Roussel, professeur agrégé à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal.
Ce que j'entends là, sur le terrain concernant cette visite, c'est du côté de beaucoup d'Autochtones qui sont extrêmement perplexes en ce moment. J'entends des expressions de frustration face au fait qu'ils ne sont pas consultés, qu'ils n'ont pas été consultés sur la manière dont les choses ont été mises en place, dont cette visite-là a été préparée. Ils ne comprennent pas les modalités de participation, d'inscription aux différentes activités. Le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, fait une sortie il y a quelques jours en disant que les Autochtones étaient exclus du processus, qu'ils n'arrivaient pas à s'inscrire dans les activités publiques qui sont prévues durant cette visite. Et pour moi, cette déclaration-là de Ghislain Picard reflétait la confusion au niveau de la communication du côté des organisateurs de cette visite-là. Et ça fait partie de certains problèmes qui sont reliés au fait, à mon avis, que cette visite a été annoncée il n'y a pas si longtemps, que ça laisse très peu de temps pour la préparer, que cette visite-là a lieu au beau milieu des vacances de la construction au Québec, c'est-à-dire le temps le plus fort des vacances, où le personnel pastoral part en vacances aussi. Donc, on a des problèmes d'effectifs. On n'a pas beaucoup de temps pour préparer les choses. Alors, ce que j'entends sur le terrain, c'est que les organisateurs sont eux-mêmes dépassés. Alors, qu'est-ce que fait une institution dans ce temps-là? Ben, elle se rabat sur ses manières de faire habituelles. Elle n'a pas le temps de réinventer la roue. Or, ces manières de faire habituelles, sont des manières de faire qui sont empreintes de colonialisme, qu'on le veuille ou non. Les Autochtones ne font pas partie du processus de préparation, n'y en font pas beaucoup partie. Alors, se décoloniser, ça impliquerait tout un travail pour apprendre à faire les choses autrement. Moi, ça ne me surprend pas qu'au moment où on se parle, que l'Église catholique n'en soit pas là en ce moment, compte tenu du fait que, on ne change pas les choses en quelques jours ou en quelques semaines. Mais on voit le travail qui est à faire pour justement qu'on procède à une décolonisation à l'intérieur de l'Église catholique au Canada, dans la mesure où c'est possible.
Cette question de la décolonisation de l'Église catholique vis-à-vis des populations autochtones, est-ce que c'est quelque chose qui se produit d'une certaine manière dans la société canadienne, au niveau du gouvernement canadien lui aussi?
Le gouvernement actuel a beaucoup de travail de ce côté-là. À certains niveaux, il a envoyé des signaux clairs d'une intention de décolonisation. On vit actuellement probablement une ouverture qu'on n'avait pas connue, je dirais par exemple, il y a une dizaine d'années, où les Autochtones se butaient systématiquement à des fins de non-recevoir. La Commission Vérité et Réconciliation, par exemple, quand elle tenait ses travaux, faisait des demandes de prolongation de mandat pour aller plus loin, par exemple, dans l'enquête, puis c'était systématiquement un non. Et donc, actuellement, le gouvernement a démontré une ouverture de ce côté-là. Par ailleurs, il y a des griefs qui persistent. Vous savez, par exemple, il y a des projets d'exploitation pétrolière, de construction de pipelines vers la côte ouest qui passent sur des territoires traditionnels autochtones. Alors, il y a eu une opposition importante de la part des Autochtones, non seulement dans l'Ouest canadien, il y a eu notamment un blocus ferroviaire au début de 2020. Les trains ne pouvaient plus circuler à travers le pays parce que les Autochtones le bloquaient. Donc, il y a des attitudes encore de confrontation qui montrent que l'ouverture, je dirais, du gouvernement à une idée d'une décolonisation a quand même ses limites.
Jean-François Roussel, de l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal, donc au Canada. Il était interrogé par Véronique Guémard. On suivra évidemment ce déplacement du pape dans notre rendez-vous lundi. On entendra l'un des membres de ces communautés autochtones, donc dont des milliers d'enfants ne sont jamais revenus de ces pensionnats gérés par les institutions religieuses.
Le journal de l'Outre-mer.
C'est avec Alex Léveillé. Bonjour Alex.
Bonjour Mickaël.
On évoque d'abord cette opération de gendarmerie d'envergure qui a eu lieu mardi dernier en Martinique dans la commune de Schœlcher.
Oui, plusieurs personnes ont été interpellées, des armes, des véhicules, de l'argent et des stupéfiants ont même été saisis. Muriel Tosia de Martinique, la première.
C'est au petit matin que les forces de gendarmerie sont intervenues à la cité Ozanam à Schœlcher. Une opération de police judiciaire qui a réuni une trentaine de gendarmes mobiles, de la brigade de recherche et du groupe cynophile sur un secteur repéré comme potentiel point de deal du quartier. Selon nos informations, des stupéfiants, des véhicules, une certaine somme d'argent mais aussi des armes ont été saisies et plusieurs personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Pour l'heure, une enquête est en cours pour en savoir plus et identifier d'autres individus dans ce qui s'apparente à un trafic criminel. En l'espace de 6 mois, la gendarmerie a déjà saisi plus d'une centaine d'armes, 115 exactement, contre 120 sur toute l'année dernière. Des armes de poing qui de plus en plus souvent sont modifiées pour en faire des armes lourdes avec des chargeurs à répétition. Quant aux homicides, 16 meurtres ont été commis en Martinique depuis le début de l'année.
Muriel Tosia de Martinique, la première. Parlant de sport avec ce stage de perfectionnement pour 150 footballeurs martiniquais âgés de 9 à 12 ans. Ils sont actuellement en formation au stade du Marin. Manuel Larade de Martinique, la première, les a rencontrés.
Allez, allez, on maintient, 30 secondes. Allez, encore, on répète. Ouais, super.
Enfin, un stage gratuit pour nos enfants. Il est financé par l'international français Raphaël Varane, qui veut donner de l'ambition aux jeunes. Son père Gaston est présent, ainsi que son frère Anthony, le président de l'association Stage Varane.
Alors ce sont des stages ouverts à tous, quel que soit leur niveau de pratique footballistique, qui sont mixtes aussi. On est vraiment sur des stages dans lesquels on met les enfants en immersion dans l'impôt d'un footballeur professionnel.
Un moment que ceux qui ont la chance d'être présents apprécient particulièrement, à l'image d'une des rares filles, Diane Saint-Just du Estel à Mantin.
C'est vraiment un stage pour apprendre et s'améliorer.
Je veux faire quoi plus tard alors ?
Footballeuse professionnelle.
Comme Wendy Renard.
Oui, mon but c'est d'aller le plus loin.
Les garçons sont forcément en nombre. Beaucoup veulent marcher sous les traces de Raphaël Varane, l'originaire du Morne Rouge, Warwick Silvius de l'Espoir de Sainte-Luce.
Les coachs ils sont agréables. Ils veulent qu'on mette de la volonté, de l'envie. Mais je souhaiterais devenir footballeur professionnel.
Ces stages sont un besoin pour nos jeunes footballeurs qui rêvent de représenter la Martinique au plus haut niveau.
Et c'est tout le mal que l'on souhaite à ces jeunes footballeurs en devenir. Un sujet signé Manuel Larade de Martinique, la première. Et c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Merci beaucoup Alex, à vous et aux équipes de la première qui refermaient ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Réalisé aujourd'hui par Claude Battista. On se retrouve demain sur RFI.
au cœur du marché de Bujumbura
ou sur les bords du lac Tanganyika.
RFI à Bujumbura sur 96.1 FM.
Dans le quartier de Gracia
ou tout au long de la Ramblas.
RFI à Barcelone sur 105.3 FM.
Dans les rues de Pétionville
ou dans les allées du marché en fer.
RFI à Port-au-Prince sur 89.3 FM.
Pour connaître nos fréquences dans le monde, connectez-vous sur RFI.fr.
Tout à l'heure sur